Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, direction Lille dans le nord de la France et plus particulièrement la ville de Croix où je vous invite à me suivre à la découverte d'un trésor d'architecture moderne, la Villa Cavrois, réalisée par l'architecte français Robert Mallet-Stévens. Quand on pense à la région lilloise, on pense maison à colombage ou bâtiment de briques rouges, mais on ne pense pas forcément à l'architecture moderniste du début du XXe siècle. Or, à quelques kilomètres du centre de Lille, dans la commune de Croix, accessible facilement en tramway et en métro, se cache un trésor d'architecture de l'entre-deux-guerres, un bâtiment innovant pour l'époque, un château moderne cubiste inspiré du mouvement Art déco et imaginé par l'architecte Robert Mallet-Stévens. Je veux parler de la Villa Cavrois. Je ne sais pas si vous connaissez cette demeure atypique, ni si vous avez déjà entendu parler de son architecte, Robert Mallet-Stévens, mais je compte bien tout vous dire pour vous donner envie, je l'espère, d'aller l'explorer. Cette construction atypique est commandée au milieu des années 1920 par Paul Cavrois, un riche industriel textile de la région, qui donnera ainsi son nom à la villa que l'on peut aujourd'hui visiter. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose un point biographie. Qui est Paul Cavrois ? Né le 29 août 1890, Paul Cavrois est issu d'une famille d'industriels du nord de la France qui a fait fortune dans le secteur textile. Au milieu du 19e siècle, à Roubaix, son père Jean-Baptiste Cavrois a en effet fondé l'entreprise Cavrois-Mailleux qui gère des usines de filature, de tissage et de teinture de coton et de laine. À la mort de leur père, Paul et son frère Jean reprennent ainsi l'entreprise familiale. De son côté, Jean épouse Lucie Van Outrive en 1912 avec laquelle il a trois enfants, Jean-Baptiste en 1911, Geneviève en 1912 et Michel en 1914. Malheureusement, Jean Cavrois va mourir le 9 novembre 1915 sur le front serbe durant la Première Guerre mondiale. Lucie, désormais veuve, et ses enfants sont pris en charge par Paul, comme cela se faisait à l'époque, et finalement, le 16 septembre 1919, Paul et Lucie se marient. De cette union naîtront quatre enfants, Paul Junior en 1920, François en 1921, et les jumelles Annette et Brigitte en 1923. Paul Cavrois continuera à faire de l'industrie Cavrois-Mailleux une entreprise prospère, jusqu'à sa mort le 10 octobre 1965. Alors, maintenant que vous connaissez un peu mieux Paul Cavrois, qu'en est-il de sa villa ? Nous sommes après la guerre, au début des années 1920, et Paul Cavrois, dont l'activité industrielle a repris de plus belle, souhaite bâtir une maison familiale moderne qui puisse asseoir son statut social, bien sûr, mais aussi accueillir son épouse, Lucie, et leur famille recomposée, ainsi que tout le personnel nécessaire à l'époque pour des personnes de leur rang. En 1923, Paul Cavrois fait l'acquisition d'un terrain sur la colline de Beaumont, non loin de Roubaix où se trouvent l'entreprise et les usines familiales, et plus exactement sur la commune de Croix, où les industriels lillois avides d'air pur et de campagne commencent à s'installer. Mais à l'inverse de ce qui se faisait alors, Paul Cavrois ne va pas choisir de construire une maison bourgeoise de style anglo-normand ou néo-régionaliste, inspirée des habitations locales traditionnelles. Il souhaite en effet offrir à sa famille une résidence des plus modernes, avec le confort dernier cri, et une surface assez vaste pour que lui et son épouse, comme chacun de ses enfants, bénéficient de larges espaces personnels. Tout va alors se jouer en 1925, à Paris, lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. C'est à cette occasion que Paul Cavrois rencontre Robert Mallet-Stévens et qu'il découvre son travail. Ce dernier, Robert Mallet-Stévens, vient d'achever la villa du Clos Saint-Bernard à Hyères, dans le Var, connue aujourd'hui comme la Villa Noailles, une bâtisse moderne créée pour le comte de Charles et Marie-Laure de Noailles, un couple de riches mécènes et collectionneurs parisiens. Mallet-Stévens travaille en outre sur le projet d'une maison pour le célèbre couturier de l'époque Paul Poiret, et Paul Cavrois voit alors en cet architecte parisien qui a le vent en poupe un moyen de se distinguer de ses compatriotes lillois. Le goût de Robert Mallet-Stévens pour les techniques les plus en pointe et les bâtiments modernes, lumineux et spacieux va convaincre Cavrois, de faire appel à ses services. Il propose ainsi de donner carte blanche à Robert Mallet-Stévens qui accepte, ravi de pouvoir travailler en toute liberté créative. Alors là aussi, avant de continuer, un point biographie s'impose concernant Robert Mallet-Stévens et son travail. Robert Mallet-Stévens est un pionnier de l'architecture moderne et du style art déco dans la première moitié du XXe siècle. Né le 24 mars 1886 à Paris, il est issu d'une famille où l'art tient une place majeure, puisque son père est galeriste et peintre paysagiste, et sa mère est créatrice de chapeaux et issue d'une famille d'artistes et de collectionneurs belges. Il développe ainsi très tôt un goût pour la création, et en particulier pour l'architecture. En 1903, il choisit ainsi d'étudier à l'École spéciale d'architecture à Paris, où il est exposé aux principes de l'architecture classique. Cependant, il s'éloigne rapidement des conventions architecturales traditionnelles pour embrasser des idées plus avant-gardistes, influencées par Auguste Perret, l'un des pionniers de l'architecture en béton armé. Diplômé en 1906, il s'intéresse aux nouveaux courants architecturaux qui émergent, en Autriche avec Joseph Hoffmann ou Adolf Loos, aux États-Unis avec Frank Lloyd Wright, en Allemagne avec Ludwig Mies van der Rohe, qui sera plus tard naturalisé américain, ou encore en France avec Le Corbusier. Ces figures clés du mouvement moderne, dit aussi architecture moderne, prônent la fonctionnalité, la simplicité, la géométrie, la suppression des éléments décoratifs superflus et l'utilisation de matériaux industriels. Robert Malestévens va faire de ces principes ses propres valeurs. Il est aussi particulièrement influencé par le palais Soclet, chef-d'œuvre moderniste bâti à Bruxelles entre 1905 et 1911 par Joseph Hoffmann pour son oncle Adolphe Soclet, et dont il visitera régulièrement le chantier. Alors, s'il écrit beaucoup sur l'architecture et le mouvement moderne, Malestévens n'a, avant-guerre, encore réalisé aucun projet concret. Ce n'est qu'en 1920, après la Première Guerre mondiale donc, qu'il expose ses premiers projets d'architecture moderne imaginés pour des boutiques et qu'il réalise des décors de films avec des jeux de volume, de matière et de lumière qui marqueront son futur style. Il trouve également de nouvelles influences dans les mouvements avant-gardistes du Bauhaus en Allemagne et de Stiel aux Pays-Bas. Le premier, le Bauhaus, né en 1919 dans l'Allemagne d'après-guerre et créé par Walter Gropius, fonde ses principes sur l'unification de l'art et de l'architecture. Les arts, sculptures, peintures, arts appliqués et l'artisanat deviennent partie intégrante d'un nouveau type d'architecture qui se veut plus démocratique. Le deuxième, le mouvement de style, né en 1917 aux Pays-Bas, touche aussi bien les arts que l'architecture. Il se caractérise par une recherche d'abstraction rigoureuse qui passe par l'utilisation de lignes droites, de formes géométriques et de couleurs primaires. Robert Malestévens va ensuite et surtout s'intéresser au style art déco qui apparaît avant la Première Guerre mondiale, certes, mais qui se développe surtout dans les années 1920-1930. Ce style, qui doit son nom à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels organisée à Paris en 1925, s'inscrit en rupture avec l'art nouveau, qui lui, au début du XXe siècle, faisait la part belle aux courbes et aux volutes, aux motifs floraux et végétaux et à la surabondance d'ornementation. Le mouvement art déco touche alors aussi bien l'architecture que le mobilier et les arts décoratifs. Célébration de la modernité et en cela proche du mouvement moderne, il rejette l'ornement excessif, au profit de lignes épurées, de formes géométriques et de motifs abstraits. Les artistes et designers de l'art déco cherchent en outre à marier l'artisanat traditionnel avec des matériaux et des techniques de fabrication modernes pour créer un style incarnant le luxe et l'élégance, tout en étant ancré dans la fonctionnalité. Un concept qui correspond à l'approche avant-gardiste et moderniste de Robert Malestévens, qui contribuera ainsi personnellement aussi au développement du mouvement art déco. L'architecture de Malestévens se caractérise ainsi par sa simplicité élégante et son utilisation novatrice de matériaux modernes. Il conçoit alors dans les années 1920 et 1930 des bâtiments résidentiels, des villas, des hôtels particuliers, des maisons de vacances, des cinémas et même du mobilier. Soucieux de proposer une approche globale, Malestévens réalise des constructions qui combinent parfaitement l'art, l'architecture et le design d'intérieur dans un style moderne unique. Un style moderne unique qui, de la structure du bâtiment au mobilier en passant par la composition des jardins, crée des environnements cohérents, harmonieux et fonctionnels. Ainsi, comme d'autres architectes modernistes de son époque, Malestévens est un défenseur du fonctionnalisme. Pour lui, la forme des bâtiments doit être guidée par leurs fonctions grâce à des plans rationnels et un design intérieur qui, dans un pur style art déco, doit se faire simple et élégant, épuré et géométrique et sans fioritures. Il favorise également l'utilisation de la couleur et du jeu de lumière pour créer des espaces intérieurs dynamiques et accueillants. Par ailleurs, Malestévens décide d'utiliser des matériaux modernes tels que le béton armé, le verre, l'acier et l'aluminium, ce qui est révolutionnaire à l'époque. Il s'agit de créer des structures légères et aérées, auxquelles il peut intégrer cependant des matériaux plus traditionnels comme la pierre et le bois, pour créer un contraste harmonieux. En 1929, Robert Malestévens fonde l'Union des artistes modernes, qui réunit artistes et artisans et architectes, avec pour objectif la création de meubles et objets alliant art et industrie. Mais les années 1930, marquées par la crise économique, vont ralentir les commandes et il ne travaillera pas réellement sur de grands projets publics qui auraient pu le rendre plus célèbre. En 1935, il devient directeur de l'École des Beaux-Arts de Lille, puis lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il quitte le Nord pour sa résidence du Lot, où il décède des suites d'une maladie le 8 décembre 1945. Par son talent avant-gardiste, Robert Malestévens a contribué de manière significative à l'évolution de l'architecture moderne et du mouvement Art déco en France et à l'international. Ses conceptions visionnaires ont contribué à façonner l'esthétique architecturale du XXe siècle et son influence perdure dans de nombreuses réalisations contemporaines. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on notera la Villa Cavrois, donc, à Croix, la Villa Noailles, à Hyères, et la Villa Paul Poiret, à Mézy-sur-Seine. Alors, revenons à la Villa Cavrois, justement. Robert Malestévens s'étant engagé sur plusieurs commandes d'hôtels particuliers à Paris, il ne commence à étudier le projet qu'à partir de 1929. Après diverses propositions et échanges, les plans finaux sont prêts et les premiers travaux peuvent commencer en juin 1930. Parmi les derniers points à finaliser, il reste le choix du revêtement de la maison. Inspiré par les volumes modernes du palais Soclet réalisé à Bruxelles par Joseph Hoffmann, Robert Malestévens propose à Paul Cavrois d'en reprendre l'idée d'un revêtement en briques jaunes pour sa nouvelle villa. Les Cavrois acceptent, Ce sera la seule construction de Robert Malestévins recouverte de telles briques de parements jaunes. Finalement, le chantier de la Villa Cavrois est terminé en juin 1932. 56 mètres de long, 15 mètres de large et 21 de haut, avec une surface habitable de 1800 mètres carrés, la Villa Cavrois s'impose dans le paysage environnant et surprend autant qu'elle choque. Le bâtiment conçu par Robert Malestévins se veut l'exemple parfait de la modernité, confortable, aéré, lumineux et avant tout fonctionnel. Ainsi, les ouvertures vers l'extérieur sont nombreuses pour laisser entrer la lumière de manière optimale dans chacune des pièces et pour permettre une vue idéale sur le jardin, lui-même aménagé en conséquence. Les équipements sont parmi les plus modernes de l'époque, chauffage central au fioul, éclairage, ventilation, ascenseur, téléphone, radio diffusée dans chaque pièce. L'organisation de la demeure ressemble au plan classique d'un château en U, avec pour chaque pièce un usage spécifique. Au centre, les espaces de réception et de vie, vestibule, hall-salon, coin cheminée, salle à manger, fumoir. Dans l'aile est, les pièces destinées aux adultes et en particulier aux parents. Au rez-de-chaussée, le bureau et deux chambres dites « chambres de jeune homme » destinées aux deux fils déjà jeunes adultes que Lucie Cavrois a eu de son premier mariage. Et au premier étage, la chambre, le boudoir et la salle de bain des parents. Dans l'aile ouest, les pièces accueillent les enfants, mais aussi les domestiques. Au rez-de-chaussée, la salle à manger des enfants, la cuisine, l'office et les logements du personnel. Au premier étage, trois chambres et deux salles de bain pour les enfants et la gouvernante. Et au deuxième étage, une grande salle de jeu attenante à deux plus petites salles d'études. Le belvédère, au sommet de la villa, abrite lui une petite pièce ronde où seules une table et deux chaises peuvent tenir. Telle la tour ou le donjon d'un château, ce belvédère permettait à Paul Cavrois, grâce à sa fenêtre circulaire, d'avoir un point de vue à 360 degrés sur l'horizon. Au sous-sol se trouvent les espaces de service consacrés au fonctionnement de la maison. Un garage, une chaufferie, une buanderie, avec machine à laver, à repasser et sèche-linge, des caves à vin et un garde-manger, un fruitier, un local à bois, une pièce pour les fleurs, une autre pour conserver les malles de voyage, ou encore une dernière pour le matériel sportif. La Villa Cavrois se situe alors à la jonction entre classicisme et modernité. Moderne, le côté nord, par où l'on arrive sur la propriété et par où on entre dans la maison, présente les pièces fonctionnelles, vestibule, cuisine, couloir. Classique, à l'image des châteaux du XVIIIe siècle, le côté sud, ouvert sur le parc, accueille les salons familiaux et les lieux de vie sociale. Cependant, si la distribution des pièces suit plutôt un schéma classique, leur aménagement est novateur pour l'époque. Tout est question de volume, de simplicité et de rationalité. Pas de fioritures, tout doit servir la fonctionnalité de chaque espace. Ainsi, Malestévins laisse toute leur place aux murs, dont les matériaux qui les composent, rigoureusement choisis pour leur qualité intrinsèque, se suffisent à eux-mêmes et ne nécessitent aucune surcharge d'ornement. Les fenêtres et ouvertures jouent également ici un rôle essentiel pour équilibrer la structure des pièces et leur apporter la luminosité nécessaire, une lumière naturelle, directe ou indirecte, appuyée par un éclairage artificiel judicieusement placé. C'est là l'objectif de l'architecture moderne de Robert Malestévins, rendre aux bâtiments leur fonction première, sans décors et artifices inutiles, et optimiser le confort et l'usage des espaces de vie. On peut alors penser que ce type d'habitation est froid, impersonnel et dénué de charme. Et pourtant, visiter la Villa Cavrois, c'est plonger dans un univers certes épuré et allégé du superflu, mais aussi très graphique, géométrique, coloré et rigoureusement décoratif. Car au-delà du volume et de l'organisation structurelle des espaces, Robert Malestévins va, pour la première fois de sa carrière, penser et créer l'ensemble des éléments qui composent son projet architectural. Mobilier, luminaire, poignée de porte, finition des peintures, jardin, il imagine et dessine tout, des meubles prévus pour les pièces de vie et de réception à ceux destinés aux pièces de service, jusqu'au bassin et à la composition du parc. Finalement, la Villa Cavrois est conçue comme une œuvre d'art totale, où intérieur et extérieur sont pensés pour cohabiter en harmonie. À travers cette œuvre architecturale, Malestévins pose les principes de son architecture moderne composée de formes et de volumes cubiques et rectangulaires de diverses dimensions, des formes qui se superposent et se juxtaposent, ponctuées par des terrasses, une pergola et des toits-terrasses qui allègent la structure d'ensemble. Pour lui, l'architecture est, je cite, « un art essentiellement géométrique où l'architecte sculpte un bloc énorme, la maison ». Le parc sur lequel la plupart des pièces de la villa ont un point de vue unique a également été entièrement imaginé par Robert Malestévins. Rigoureuse, la composition des jardins s'articule entre des allées géométriques qui, à chaque point de jonction, offrent un angle de vue différent sur l'élément principal de la propriété, la villa. Tel un grand canal moderne, un miroir d'eau central, perpendiculaire à la maison, reflète la silhouette du bâtiment dont on peut, à distance, évaluer les dimensions impressionnantes, 56 mètres de longueur tout de même, et l'équilibre des formes cubistes. Un second point d'eau, long de 27 mètres et parallèle à la villa, sert de bassin de natation, une piscine familiale agrémentée de deux plongeoires à l'allure très graphique. Enfin, l'architecte paysagiste dote le jardin d'une roseraie et d'un potager. Quoi qu'il en soit, la famille Cavrois inaugure leur villa le 5 juillet 1932 à l'occasion du mariage de leur fille Geneviève. La demeure surprend, suscite des moqueries aussi, ou encore des jalousies, mais ne laisse personne indifférent. le souhait de Paul Cavrois d'étonner et de détonner au sein de la bourgeoisie industrielle locale, plutôt traditionnelle, est exaucé. Les Cavrois habiteront leur château cubiste jusqu'en 1939, où la guerre les oblige à migrer vers leurs propriétés normandes. Occupée de 1940 à 1944 par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, la demeure ressort abîmée du conflit. En 1947, Paul et Lucie Cavrois lancent des travaux de rénovation et de transformation afin d'accueillir leur famille élargie. En effet, leurs fils Paul et François, qui travaillent pour l'entreprise familiale désormais, sont mariés. Les aménagements sont confiés à l'architecte Pierre Barbe et en 1959, la famille se réinstalle dans la villa. Tout bascule à la mort de Paul Cavrois le 10 octobre 1965. Si son épouse Lucie reste à demeure, ses fils, touchés par la crise de l'industrie textile, souhaitent déménager. L'entretien de la villa est onéreux, elle se dégrade petit à petit, et à la mort de leur mère le 29 avril 1985, les enfants Cavrois décident de vendre la propriété familiale. Le mobilier d'abord, ainsi que certains décors, sont cédés à un antiquaire, et ensuite la villa est vendue en 1987 à un voisin. Ce dernier, à la tête de la société de promotion immobilière Kennedy Roussel, entend bien détruire le bâtiment qu'il ne trouve pas à son goût afin de lotir le terrain et d'y construire 6 immeubles. La Villa Cavrois ne doit son salut qu'à une poignée d'amateurs qui se battent pour tenter d'empêcher sa destruction et qui fondent en 1990 l'association de sauvegarde de la Villa Cavrois. Classée au titre des monuments historiques le 12 décembre 1990, la villa paraît alors hors de danger. Mais c'était sans compter sur la malhonnêteté de son propriétaire qui, voyant la réalisation de son opération immobilière compromise, décide de démonter et vendre les décors, puis de laisser le bâtiment à l'abandon et à la merci des squatteurs et autres vandales. Finalement, un compromis est signé en 2001 entre le propriétaire et l'État. La Villa Cavrois est alors en ruine. Un long chantier de restauration est lancé en 2003 afin de rendre à l'ensemble architectural son aspect initial de 1932 et la Villa Cavrois, telle que l'on peut désormais la visiter, est inaugurée en avril 2015. Emblématique du renouveau et de l'innovation dans l'architecture de l'entre-deux-guerres, la Villa Cavrois est à mi-chemin entre deux mondes, deux époques, l'une en voie de disparition, l'autre en voie de développement. D'abord représentative d'une société révolue, où les riches familles d'industriels logeaient et recevaient dans de véritables châteaux avec tout le personnel de service nécessaire, elle est également symbolique d'une époque où la modernisation des habitations est au cœur des préoccupations afin de gagner en confort et en qualité de vie. Plus que les décors, les techniques de construction, le choix des matériaux et la structure architecturale des logements doivent avant tout leur permettre d'être fonctionnels. Si vous n'avez jamais visité cette demeure moderne atypique, je vous invite à le faire, et pour découvrir les pièces remarquables de la Villa Cavrois, rendez-vous dans l'article de mon blog, lescarnedigor.fr. Pour ma part, je connaissais déjà le travail de Robert Malestévens à travers la Villa Noailles ailleurs, que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. En admirateur de son travail moderniste, j'avais très envie de découvrir son projet emblématique qu'est la Villa Cavrois, et je dois dire que je n'ai pas été déçu. J'ai même été conquis par ma visite. Des extérieurs aux intérieurs, il y a beaucoup à voir à la Villa Cavrois. La rénovation est incroyablement réussie et le mobilier comme les décors restitués nous plonge directement dans l'architecture moderne de l'entre-deux-guerres. N'hésitez pas à vous rendre à Croix, près de Lille, pour explorer la Villa Cavrois, une visite qui plaira aux amateurs de patrimoine et d'architecture, comme aux curieux qui souhaitent mieux comprendre le fonctionnement d'une riche demeure des années 30. Tous les détails de visite sont à retrouver sur mon blog, lescarnedigor.fr, ou sur le site de la Villa Cavrois. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous aura donné envie d'aller explorer l'architecture moderne de la Villa Cavrois. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnedigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant ma visite de ce château cubiste, mais aussi diverses anecdotes et les visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.